Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
13h05 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec l'interrogation du jour et elle concerne Elisabeth Borne. La première ministre fête aujourd'hui ses 10 mois à la tête du gouvernement. Un anniversaire morose car c'est peu de dire que la première ministre est très fragilisée par le recours au 49.3. Mais elle a reçu ce matin le soutien du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Il était l'invité d'Apolline de Malherbe.
Bien sûr, elle a le soutien de la majorité et la confiance du président. Mais vous savez, la première ministre est solide. Elle l'a montré hier. Elle est très solide. Et pour revenir à ce que l'on se disait avant que vous passiez les...
Elle est solide, mais il y a eu des larmes.
La première ministre ne pleure pas.
Donc les larmes évoquées par certains députés, c'était pas...
C'est l'émotion. C'est l'émotion parce que, effectivement, la majorité lui a apporté un soutien aussi uni que le soutien apporté à la réforme.
Voilà, contrairement à ce que dit Olivier Dussopt, Elisabeth Borne est évidemment fragilisée par le recours au 49.3. Il peut se passer quoi désormais pour la Première Ministre?
Elle pourrait tout simplement être contrainte de démissionner. Oui. Au total, 3 motions de censure pourraient être déposées dans les minutes, les heures ou les jours qui viennent, en tout cas avant lundi, il y a un délai. Une par la NUPES, une par le RN et une autre transpartisane qui pourrait être co-signée par le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, le LIOT. Et c'est cette dernière qui apparaît comme la seule en mesure d'être votée. Elle n'émane ni du RN ni de la NUPES. Elle pourrait donc inciter les deux groupes à la voter. Pour être adopté, ce texte doit en tout cas recueillir 289 votes. Ce qui implique que tous les députés NUPES votent pour cette motion de censure. Ils sont 149. Tous les députés RN, 88. Tous les LIOT, 20. Et pour arriver à 289, au moins 32 des 61 députés Les Républicains. Et c'est là que ça apparaît comme étant le plus compliqué. Reste qu'Elisabeth Borne, qui jusqu'à hier encore ne voulait pas du recours au 49.3, assume désormais. D'après une source qui participait à la réunion qui s'est tenue hier à la mi-journée à l'Élysée, la Première Ministre aurait déclaré être prête à jouer le rôle de fusible pour faire passer la réforme. Et si elle devait sauter lundi en tant que fusible, Elisabeth Borne, deuxième femme à être devenue chef de gouvernement en France, serait restée 10 mois et 4 jours à Matignon. Ce serait moins qu'Edith Cresson qui s'était maintenue 10 mois et 18 jours.
Elisabeth Borne doit-elle démissionner? C'est la question que nous vous posons et que je vous pose, Laurent Dandrieux.
Alors, je pense que déjà, du point de vue macronien, ils n'ont pas intérêt à ce qu'elle démissionne, parce que le seul petit bénéfice politique qui tire de la séquence, c'est de pouvoir dire on a tenu bon, on a résisté et on a réussi à faire passer une réforme. Changer de Premier ministre maintenant, c'est un peu contredire ce message-là et avouer que politiquement, c'est une sorte de fiasco. Donc je pense que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. En plus, il y a le mauvais signal, effectivement, d'un nouveau mandat de Premier ministre femme très court. C'est pas très politiquement correct par les temps qui courent, pas très habile. Surtout, qu'est-ce que ça change, quoi? C'est-à-dire que...
C'est un geste symbolique fort.
Oui, mais c'est un geste symbolique qui est un geste de recul, c'est pas un geste conquérant. Et en fait, le seul intérêt.
Ça peut être vu comme un geste d'apaisement.
Le seul intérêt d'un changement de Premier ministre, c'est quand vous avez un changement qui incarne une nouvelle politique. C'est-à-dire quand Mitterrand remplace Mauroy par Fabius, c'est pour faire une autre politique. Quand, plus anciennement encore, Pompidou remplace Chaban par Mesmer, c'est pour faire une autre politique. Quand Macron change Édouard Philippe par Castex, c'est pour rien, c'est juste pour une question d'affichage. Et ça n'a de fait aucun effet sur la suite du quinquennat. Donc en termes de popularité et d'élan. Et donc moi je ne vois pas l'intérêt, je n'y verrai qu'un aveu de faiblesse en fait.
Vous êtes d'accord avec ça vous, Fred Hermel?
Non, moi je pense qu'elle doit démissionner. Hier je disais que si la réforme était votée au Parlement, c'eût été la grande victoire d'Elisabeth Borne. Parce qu'elle aurait montré des talents politiques, parce qu'il aurait fallu rassembler une vraie majorité. Elle a échoué. Elle a échoué. En plus, son discours hier, il était un peu...
Qu'on en a entendu.
À l'Assemblée. Moi, je l'ai trouvé très bonne à l'Assemblée. Faut y aller, hein, quand même.
Peut-être un peu injuste de ma part. C'est vrai que les conditions n'étaient pas faciles, mais tous les mots étaient attendus.
Ouais, mais elle a été plutôt combative, conquérante.
Oui,
moins aux 20h après, mais à l'Assemblée.
Mais le problème, c'est qu'elle a échoué. Elle a échoué. Et par contre, moi, je pense qu'il y a une loi qui se prépare sur l'immigration. Et donc, mettre Darmanin Premier ministre, ça peut être un.
Ah, message parce que ça cristalliserait pas du tout de mécontentement.
Et j'écoutais ce que tu disais tout à l'heure, Laurent Dandrieux, qui me paraissait très intéressant. Si on continue à avoir des violences, etc., là, c'est bon pour Macron parce que, pour montrer... Macron, c'est toujours moi ou le chaos, hein, quand même, depuis le début. Hein, c'est moi ou le chaos. Hein. Donc là, de montrer, voilà, de montrer les muscles, nommer Darmanin Premier ministre, là, il y a un message politique très clair qui se
Je ne suis pas sûr que le message sera accepté par une bonne partie des Français.
Attention, attention, parce que si le bordel continue...
Ni par la Macronie, parce que mettre Darmanin Premier ministre aujourd'hui... connaissant les ambitions politiques qui sont les siennes, c'est aussi le mettre sur une rampe de lancement pour être le candidat de la Macronie.
Il y a peu de premiers ministres qui ont été président de la République.
En général, c'est
je suis d'accord.
Mais alors, pour ses ambitions personnelles.
Justement, c'est pour ça que
Bruno Le Maire qui lui aussi a des ambitions.
C'est pour ça que je suis pas persuadé de l'opportunité d'un remaniement, moi, personnellement.
En tout cas, il est clair que c'est l'échec. C'est un échec d'Elisabeth Borne qui était là pour ça. C'est la réforme majeure. Elle n'a pas trouvé de majorité. Pour moi, elle doit partir. Et surtout, d'autant plus parce que a priori. Ça sera difficile qu'elle soit virée, entre guillemets, par la motion de censure. Oui. Mais si elle reste pour quelques voix, si la motion de censure ne passe pas pour rien... Oui, mais enfin, tu vois, si ça joue à un, deux...
Ça va jouer à 10 voix, quoi.
Ouais, mais si c'est un ou deux, comme ça, il y a raison de plus pour qu'elle parte.
Emmanuel Dancourt, Elisabeth Borne, elle a engagé sa responsabilité. Est-ce qu'elle doit en tirer les conséquences pour vous?
Je vais répondre à ta question. La motion de censure, ça n'a marché qu'une seule fois, c'était en 1962. Donc effectivement, c'est la raison, ça va jouer à quelques voix lundi, ça va être passionnant à suivre, mais a priori, tous les observateurs politiques pensent que ça ne passera pas. Après, moi j'ai l'impression, il y a 10 mois et 4 jours, quand elle a été choisie par Emmanuel Macron, elle a été choisie pour mener cette retraite. Il a choisi une femme qui a l'habitude du milieu politique, une femme assez dure, une femme qui se laisse pas impressionner par grand-chose. Et j'ai l'impression qu'on est dans la suite logique de ce qui allait arriver, que depuis le départ, elle sait qu'elle est le fusible, qu'elle était là, qu'elle était le bon petit soldat, comme on a dit, pour mener cette retraite. Et peut-être qu'elle va sauter lundi. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Laurent, quand tu dis à quoi ça sert, ça change rien. Mais ça peut être pris comme un signe, en tout cas Macron peut se dire, si je change de Premier ministre, et pitié, pas Darmanin, parce que là, toutes les femmes seront dehors dans la rue, si je change de Premier ministre, ça peut montrer que j'écoute, il a quand même encore 4 ans à faire. Ouais. Je veux dire, tu te rends compte un peu la crise politique qu'on est en train de traverser, la violence qu'on voit dans les rues et tout ça. Moi, je ne suis pas sûre qu'elle va pouvoir rester parce qu'elle symbolise aussi tout ça, tu vois. Oui. Et peut-être, je tourne la page. J'ai réussi à faire ma réforme des retraites. Je tourne la page, je prends un nouveau Premier ministre, et il y a quelqu'un qu'on n'entend pas du tout, c'est Laurent Wauquiez. Ouais. Laurent Wauquiez, il est où en ce moment? Lui, il a des grosses ambitions. Non, mais toi, il est présidentiel, donc
il est chez lui.
Ouais, mais tu disais, on prend qui comme Premier ministre? Il peut peut-être aller chercher un Wauquiez.
Alors, tu vas prendre les LR, donc tu vas récompenser les LR, mais ça va pas bien. Donc, les LR te torpillent ta réforme. C'est à cause d'eux que tu fais le 49-3, et pour les récompenser, tu vas aller les mettre.
Et tu vas pas chercher justement quelqu'un qui a fait l'autruche pendant toute cette séquence.
Bien sûr.
Mais après, je suis un peu vierge par rapport à ça.
De fait, et là, en
fait, ça signe l'échec du compromis, en fait. À quoi on assiste? On assiste, avec un texte qui est extrêmement clivant, on assiste à un échec du compromis. Ça ne marche pas. Tout le monde campe sur ses positions.
C'est que, effectivement, il reste 4 ans à tenir. Donc, il y a un moment, il faudra trouver un nouvel élan. Mais je pense que l'habileté politique serait de maintenir Elisabeth Borne au moins 6 mois pour dire, voilà, je la récompense du fait que on a tenu bon dans un contexte extrêmement difficile, et éventuellement faire un remaniement dans 6 mois. Mais à mon avis, le faire maintenant serait une grosse erreur.
Eh ben, on va demander ce qu'il en pense à Bruno Cotterêts. C'est notre invité sur ce débat, chercheur CNRS au CEVIPOF et enseignant à Sciences Po. Bonjour Bruno Cotterêts.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Alors évidemment, on parle de tout ce qui se passe depuis ces dernières 24 heures en France, et on se demande si Elisabeth Borne doit démissionner. Est-ce que ce serait une bonne chose selon vous?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est quand même pas mal fragilisée, usée. Ça fait même pas un an qu'elle est en fonction. Le niveau de popularité, même avant la séance d'hier, était assez bas. On va dire, elle et le président sont entre 25 et 30% de popularité, ce qui quand même est assez bas pour même pas un an de fonction. La séance qui a été vécue hier, effectivement, a renvoyé des images absolument terribles, absolument terribles.
Mais elles sont bien sorties quand même.
Elles s'en est pas mal sorties, mais on voit effectivement que sur la mission essentielle qui était la sienne, eh bien, ça n'a pas marché. Donc effectivement, le changement de Premier ministre semble à un moment donné quand même assez inéluctable, parce qu'on n'imagine pas quels sont les moyens pour Elisabeth Borne de rebondir dans l'opinion. Alors quand on étudie de près les opinions des électrices, des électeurs sur l'image d'Elisabeth Borne, on voit qu'il y a effectivement un peu un souci. L'image positive, c'est quelqu'un qui bosse, c'est quelqu'un qui est sérieux, c'est quelqu'un qui est dévoué et compétent. L'image négative, c'est celle qui est dominante. L'image négative, c'est celle de quelqu'un qui est plutôt un technocrate, qui n'a pas d'empathie. Et puis sinon, c'est quelqu'un qui simplement obéit à Emmanuel Macron. Ça, ce sont les images négatives. Et donc, on voit que c'est un socle d'images qui ne permet pas, en tout cas, qui donne faiblement les moyens de reconstruire quelque chose après la séquence que nous venons de vivre.
Mais vous imagineriez qui à la place d'Elisabeth Borne ? Parce qu'on a du mal à voir quelqu'un qui crée le consensus aujourd'hui.
Oui, c'est ça le problème. Au fond, c'est vraiment le problème pour remplacer Elisabeth Borne, c'est qui a la place. Alors, quand on remplace le Premier ministre, ça ne peut correspondre qu'à un choix assez politique. Ça doit correspondre à soit un élargissement de la majorité, soit un nouveau message politique pour qu'Emmanuel Macron puisse nous expliquer enfin quelle est la grande direction de son second mandat, qui pour le moment, problème important, qui n'est toujours pas réglé, même si cette réforme des retraites est adoptée. Donc, ça ne pourrait venir, me semble-t-il, que d'une personnalité qui incarnerait fortement à la fois l'héritage de la Macronie. Il est impossible d'aller chercher quelqu'un qui n'a pas participé à l'aventure d'Emmanuel Macron depuis un petit moment, je crois, mais en même temps qui est capable d'élargir la majorité, parce que c'est le problème numéro un. Et Emmanuel Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée.
Alors, j'ai un nom à vous soumettre, alors peut-être que c'est farfelu, mais un François Bayrou, par exemple, qui peut créer le consensus et qui est une personnalité forte, qui a participé quelques jours, certes, mais au gouvernement Macron et à d'autres gouvernements, et qui, finalement, je veux dire, est quand même quelqu'un qui peut rassembler.
Je ne doute pas que François Bayrou doit y penser en rasant le matin. Ça, je n'en doute pas.
Moi
c'est vrai
plus.
Qu'il a marqué sa différence pendant le débat sur les retraites. Il a dit que c'était pas le bon timing, c'était pas le bon tempo, qu'il fallait s'y prendre différemment. Lui, effectivement, il est au centre du dispositif d'Emmanuel Macron. Donc c'est vrai que ça fait partie des personnalités auxquelles le président pourrait songer. Ça, c'est clair.
Oui, il avait fait des propositions, notamment de celle-ci, de travailler une heure de plus, en fait, pour justement ne pas repousser l'âge légal du départ de la retraite. Ça avait été balayé d'un revers de main, mais il avait fait des propositions. En tout cas, juste, j'aime pas trop, moi, parler de la différence homme-femme, Bruno Cotteret, surtout en politique, parce que ce soit Elisabeth Borne ou un homme, c'est la même chose. Sauf que quand même, aujourd'hui, Elisabeth Borne, elle fête ses dix mois à la tête du gouvernement. Virer une femme au bout de 10 mois, ça ferait un peu désordre actuellement, quand même.
Oui, et symbole particulièrement malheureux parce que ça avait été la durée de vie d'Edith Cresson.
Un petit peu plus, Edith Cresson. 10 mois et 18 jours.
Voilà, tout petit peu plus.
Les femmes sont bien traitées.
C'est vrai que ça renverrait cette image que notre vie politique n'arrive pas à stabiliser au poste de Première ministre à Matignon, effectivement, une femme. Donc ça, effectivement, c'est une des problématiques, en tout cas, un des points d'interrogation sans doute les plus importants pour le chef de l'État. Je n'imagine pas, en tout cas pour le moment, le chef d'État agir sous la contrainte des événements. Donc s'il devait y avoir changement de Premier ministre, ça sera sans aucun doute dans un second temps.
Ah, j'ai un député qui vient de m'envoyer un texto pour me soumettre un nouveau nom, Julien de Normandie. Qui a quitté le gouvernement il n'y a pas longtemps. Et alors, qui faisait pour le coup consensus. Il était vu comme peut-être un présidentiel possible dans quelques années. Hein.
C'est clair qu'il avait été, entre guillemets, shortlisté au moment où Emmanuel Macron réfléchissait à un nouveau Premier ministre. Son nom avait beaucoup circulé. Il fait partie, lui, du dispositif de départ d'Emmanuel Macron. Il dispose d'une excellente image. Il a laissé plutôt un bon souvenir dans ses fonctions ministérielles. Donc oui, ça fait partie, là aussi, des personnalités qui peuvent cocher quelques cases.
Bah merci beaucoup Bruno Cotteret. Autant vous dire que il y a beaucoup de noms qui vont être brassés dans les prochaines heures. On va jouer un peu au jeu des prospectives. On va voir ce qui va se passer avec cette motion de censure. Mais en tout cas, voilà, ça nous agite pas mal. Merci beaucoup Bruno Cotteret. On a Domenico, tiens, qui nous appelle de Pémenade dans les Alpes-Maritimes et qui voulait intervenir dans Estelle Midi. Bonjour Domenico.
Et bonjour mademoiselle Estelle et bonjour à tout le plateau Fred.
Bonjour.
Bonjour Domenico.
À tout le plateau Fred. OK. Ouais, voilà. Et ben écoutez,
je suis syndicaliste en fait.
C'est ça que j'apprécie énormément.
Mais oui, bah évidemment.
C'est gentil,
ouais. Voilà, vous devez aimer le foot, bien sûr. Domenico, elle doit démissionner ou pas, Elisabeth Borne ?
Mais bien sûr qu'elle doit démissionner. Elle doit partir, prendre son gouvernement, prendre son président avec, ses députés. C'est fini, en fait.
Elle fait les bagages, et au revoir. Et ça va carrément. Il y a peu de nuances, là.
Je veux juste rebondir sur ce que vous venez de dire, Estelle, ça m'a vraiment fait rire.
Ah bon ?
Le nom de François Bayrou. Je veux dire, on est déjà 18 mises en examen dans l'entourage de Macron, hein, 19e, c'est pas mal, non ?
Ça pourrait être sympa. Ah oui, c'est vrai.
Ouais, mais il avait dû quitter le gouvernement
à cause de ça, d'ailleurs. Et pourquoi pas une femme pour remplacer une femme ?
Parce que sinon, on va falloir changer au bout de 10 mois, c'est pas la peine. Mais non, c'est.
Vous avez un nom, vous, Domenico ?
Honnêtement, moi, je penserais plutôt à faire directement, elle s'en va, on fait une dissolution, et puis derrière, on voit ce que ça donne, on voit si une majorité se dégage, et on part sur un gouvernement en alternance, tout simplement.
Oula, ah oui, donc là, oui.
Dans tous les cas, dans tous les cas, aujourd'hui, on a vu que c'était, excusez-moi le terme, mais une bande d'incapables. Il y a Emmanuel Macron qui insuffle une politique, ils ne sont pas capables de rassembler qui que ce soit. Ils avaient une majorité relative, mais une majorité quand même. Mais ils sont incapables de faire passer une loi. Ouais. Je veux dire, on n'en est pas au premier 49-3 ou au deuxième. On est au 11e en 10 mois.
Tout à fait.
Je veux dire, à un moment donné, si elle n'est pas capable de convaincre les parlementaires, c'est qu'elle n'est pas bonne. Donc à partir de ce moment-là, quand quelqu'un n'est pas bon pour postuler, il prend ses affaires, ses dossiers et il s'en va.
Ou est-ce que les parlementaires veulent vraiment l'entendre?
On va dire que c'est le sélectionneur de cette équipe gouvernementale et souvent les sélectionneurs ou les entraîneurs, quand ça va pas, tu changes pas les joueurs.
Le problème, c'est que vu la séquence qu'il y a eu hier, c'est qu'un certain nombre de députés LR, ceux qui n'étaient pas prêts à voter la réforme, quel que soit le Premier ministre, quel que soit le texte, parce que là, le texte, il avait été... Le texte avait été revu la veille en commission paritaire.
C'est ça.
Il avait été vraiment revu, mais il était à la sauce LR. Oui. Ils ne voulaient toujours pas le voter.
Mais surtout, il a été majoritairement adopté au Sénat et par la commission.
Absolument. Et donc là, on avait une détermination pour voter, quoi qu'il arrive, non pas contre un texte, mais contre Emmanuel Macron.
Et malheureusement, je crois que c'est pas tout à fait son texte, Elisabeth Borne, à mon avis, c'est quand même plutôt texte. Emmanuel Macron, merci Domenico, en tout cas, d'avoir été avec nous.
J'avais une question.
Ah, bah alors allez-y.
Alors, vous dites qu'il a été majoritairement voté au Sénat. Moi, je veux bien. À votre avis, si on avait remis en cause le régime spécial des sénateurs, est-ce qu'il aurait été voté?
Ça, c'est pas sûr.
J'ai un gros doute. J'ai un énorme doute.
C'est pas sûr, ouais.
Mais à partir du moment où ça les concerne pas et que ça concerne que le peuple, ben là, à la limite, on y va, feu, c'est parti.
C'est comme tous les retraités qui sont pour la réforme, quoi.
Mais bien sûr, parce qu'ils sont foutus. Le problème, c'est que, les LR étaient prêts à voter à partir du moment où c'est allé dans leur sens. Là, la réforme, comme elle est, ils ont donné 2-3 broutilles aux LR qui ne sont pas suicidants. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas la voter, tout simplement.
Bah merci en tout cas Domenico pour ce point de vue. Quel nom pour vous Laurent Andrieux, tiens, pour remplacer Elisabeth Borne, c'est le parti lundi.
Alors j'ai pas de nom, mais je parierais volontiers sur quelqu'un incarnant un progressisme sociétal, parce que je pense que s'il peut y avoir un rebond pour Emmanuel Macron.
Et qui est cette personne?
Je ne sais pas.
Ah bah oui, bah qu'est-ce qu'on fait?
Non, mais je pense que.
Ça veut dire quoi, progressisme sociétal?
C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, Macron va rebondir sur le seul domaine où il a encore la possibilité de réformer, c'est-à-dire le sociétal, que ce soit l'euthanasie, que ce soit des choses comme ça. Et donc je pense qu'il va essayer de trouver quelqu'un qui incarne ça. Après, la difficulté, c'est aussi qu'on sait que Macron a du mal à nommer des gens. Il prend toujours un temps infini avant de trouver quelqu'un.
Ah bah,
on le voit bien au château de Versailles actuellement.
Elle va partir plus vite qu'elle n'est arrivée.
Mais est-ce que vous trouvez vraiment qu'elle a démérité Emmanuel Dancourt? Parce que est-ce que quelqu'un d'autre, si ça avait été un autre prémisse, est-ce que quelqu'un aurait pu faire mieux qu'elle dans ce dossier?
C'est la question que je me pose, parce que je crois qu'il faut oublier cette histoire homme-femme, et c'est moi qui le dis.
Complètement.
Donc,
il y a pas que toi.
Donc voilà, moi je crois qu'il est vraiment, je reprends ma thématique, je crois qu'il est vraiment allé chercher un soldat, quelqu'un qui connaît malgré tout assez finement le fonctionnement de la politique. Elle avait été ministre
avant. Mais qui n'est pas un vrai politique.
Mais qui n'est sans doute pas.
C'est une exécutrice.
Elle a été patronne de la RATP. C'est
un fonctionnaire.
Estelle, elle a raison quand elle dit c'était pas sa réforme. Elle est venue porter la réforme de quelqu'un d'autre. Elle était complètement contre le 49-3, donc on lui a imposé cette histoire. Il y a un côté sacrificiel. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu mieux le faire? Peut-être quelqu'un de mieux connu des Français, parce que il y a aussi moi ça me parle quand tu dis finalement on la connaissait pas. Peut-être qu'il y a eu des erreurs de fait, effectivement des maladresses. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Mais qui? Enfin ça c'est de la politique fiction, quoi. Qui aurait pu porter cette réforme-là en réalité qui ne convient à personne? Et
moi j'avais un nom, c'était Éric Woerth, parce que Éric Woerth a réussi précédemment, quand il était de l'autre bord politique, une réforme des retraites. C'est assez curieux qu'on n'ait pas pensé à le mettre davantage en avant sur ce
dossier. Il a quelques casseroles aussi, Éric Woerth. Donc, mais c'est ça, il y a un moment aussi où bon.
Mais c'est bon, il est sourd.
Non, mais bien sûr,
s'il a été acquitté. Non. Je suis d'accord, elle n'a pas démérité, parce que c'est pas facile, de bosser avec Macron, de bosser avec cette majorité-là. On n'a toujours pas compris de quel côté pencher la Macronie, hein. Enfin, je veux dire,
si, là, je crois qu'on a bien compris, là, quand même.
Ouais, bah,
plutôt à droite.
Non, mais, oui, mais enfin,
ah, bah oui, si tu me dis que ça penche à gauche, là,
Mais au sein de la Macronie, enfin, vous avez quand même Barbara Pompili, qui était élue sur une liste Renaissance, quand même.
Oui.
Donc, et qui, elle, n'était pas sûre de voter la retraite. D'ailleurs, elle ne voulait pas la voter, la réforme des retraites. Donc, non, c'est une majorité quand même difficile à gérer. Donc, elle n'a pas démérité. Non, le problème des albums, je pense qu'il faut, quand tu as besoin de négocier, il faut que tu sois un politique. Parce qu'un politique, c'est quelqu'un qui fait des compromis. C'est ça, la politique, c'est de négocier, de discuter, c'est de parler par au-dessus, parler par en-dessous, des accords, etc. Donc, elle n'avait pas les rouages, peut-être, politiciens, même, pour réussir les négociations.
Personne ne parle de Manuel Valls pour revenir aux affaires.
Non, mais je regardais, je m'étonne.
Oui, on aurait besoin de beaucoup plus de gens comme Manuel Valls. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Ah oui, d'accord, oui. Alors, j'ai des pronostics, Emmanuel.
Non, mais je regardais qui étaient les femmes actuellement en place au gouvernement. Évidemment.
Ah, mais alors, attends, non, mais tu dis.
Bah oui,
tu dis
je cherche. Est-ce qu'il faut une femme? Si vraiment il repartait sur une femme pour qu'on couper l'herbe sous le pied à cette critique.
Donc ça veut dire, en fait, tu la prends parce qu'elle est bonne, tu la prends parce que c'est une femme. Et c'est terrible
aussi parce qu'elle est très très bonne. C'est pas du tout ce que je dis.
Moi, je trouverais ça terrible d'aller chercher à nouveau une femme.
Mais je le pense aussi. Mais si vous voulez repartir sur une femme, il y a évidemment Isabelle Rome au ministère égalité femmes-hommes. T'as Olivia Grégoire
Elle n'a pas fonctionné comme porte-parole.
Non, mais.
Elle n'est pas porte-parole.
Tu te mets à la place de Macron, qui a toujours un mal fou à décider. Tu regardes d'abord ce que t'as à portée de main, quoi. Tu regardes d'abord ce que t'as à portée de main. Mais si c'est Darmanin, alors là, tout le monde est dans la rue.
Tu voulais pas une femme il y a 5 minutes, mais maintenant tu veux une femme.
Non, je disais qu'il n'y avait pas à regarder ça, mais si j'essaye de penser à leur place, je ne suis pas à leur place.
C'est ça qui est dur.
Personne n'est dans la tête de Macron, c'est ça qui est.
François Bayrou, vous allez voir, on va en parler ce week-end.
Vous verrez
François Bayrou. Ouais. Voilà, la personnalité.
Pour lancer un nouvel élan, c'est gratiné.
Tu as le côté jeune.
Mais c'est le monde d'avant, c'est rassurant le monde d'avant, vous savez.
C'est vrai qu'on est conservateurs comme nous finalement.
Rémi Barré, des messages sur l'appli RMC.
J'aurais bien voulu, mais l'appli vient de se fermer un instant. Tu vois, donc je ne vais pas te mentir. J'ai essayé de la rallumer. Je vais dire ça. Oui, c'est bon.
Ah,
allez.
C'est la CGT énergie.
Beaucoup d'observateurs politiques étaient certains qu'il y aurait un vote et pas de 49-3.
Oui.
Ça, c'est vrai. C'est vrai. Anthony qui nous le dit.
Ouais,
on a vu le résultat. Donc attention à ces motions de censure. Le résultat pourrait surprendre lundi.
Il a totalement raison.
Oui, mais il y a un truc quand même, il y a un petit élément, j'en discutais avec Jérémy Trottin tout à l'heure que j'ai croisé dans la rue. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, pour voter, c'est un vote présentiel.
C'est ça.
Donc, tu vois, c'est toujours, il y a toujours des gens qui peuvent avoir des empêchements. On a des députés qui viennent
en train,
très loin.
Il y a moins de trains.
T'as intérêt à être là. Donc il y a plein de gens qui pourront pas être là, quoi.
Allez, dans un instant, avant cela, le résultat, bien sûr. Intéressant ce résultat. Le résultat de notre consultation sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Elisabeth Borne doit-elle démissionner, Rémi?
On le sait, on l'a dit. Elisabeth Borne n'est pas très populaire actuellement.
Non.
Je pense qu'elle l'est de moins en moins, vu ceux qui ont répondu là sur nos réseaux sociaux. C'est oui. Démission d'Elisabeth Borne pour 81% de ceux qui sont prononcés.
Il y a assez peu de nuances dans ce.
C'est pas très étonnant.
On n'est pas sur une marge d'erreur.